Donc, merci de m'avoir invité à.
C'est pas trop précis, je touche. Voilà. À partager un peu mes réflexions, et bon, c'est pas que les miennes, évidemment. Hein. Moi, je suis formé en sexologie, notamment en sexo-fonctionnel, je me forme en sexo-analyse, et puis aussi tout ce qui est psychodynamique freudienne, et pas que. Moi, j'ai une approche très intégrative, c'est-à-dire que je touche un petit peu à différents registres. Alors, le désir, c'est un mot que tout le monde connaît, que ça nous concerne tous. Et le propre de ces sujets-là, c'est que ces mots ont plusieurs acceptions. Et donc, moi, je vais vous proposer un certain nombre de définitions sur les termes que je vous proposerai. Ce n'est pas une vérité en soi, mais c'est pour rendre intelligible le propos. Et souvent, quand on nous parle de désir, il y a, en tout cas en consultation, il y a un couple en difficulté, il y a peut-être un problème sexuel, et on ne sait pas toujours où est la poule, où est l'œuf. Est-ce que c'est le couple en difficulté qui génère la difficulté qui génère un problème sexuel? Est-ce que c'est le problème sexuel qui met le couple en difficulté? Le désir dans tout ça, c'est toujours le point d'interrogation. Mais on peut dire globalement que les couples qui arrivent avec un problème sexuel, en tout cas chez le sexologue, mais peut-être qu'il l'évoque auprès d'un conseiller conjugal, c'est d'abord la conséquence d'une difficulté relationnelle. C'est-à-dire, quand la difficulté relationnelle est là, ça induit un problème sexuel ou un problème de désir ou un problème autour de l'intimité conjugale. Et dans une moindre fréquence, c'est le contraire, et là, ça va concerner plus le sexologue. Voilà. Mais ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses. On ne peut pas dire problème sexuel, traitement, spécifiquement sexologie. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que les sexologues qui ont une formation de conseillers conjugaux, et les conseillers conjugaux qui se forment à la sexologie, ça a vraiment du sens. Dans les premiers temps d'un couple, tout va bien. On surfe la vague, on est porté par une dynamique, on se regarde, on saute dessus, si vous me permettez. Voilà, la question du désir, elle ne se pose pas, finalement. Au bout d'un petit moment, il n'y a plus de vague. Il n'y a plus de vague à surfer. Et on peut dire qu'il y a de l'écume à la surface. L'écume, ça va être très souvent, voilà, concernant le désir, je n'ai plus de désir. C'est le symptôme qui nous est apporté. Je n'ai plus de désir. Venez m'aider autour de cela. Mais sous l'écume, vous voyez qu'il y a quand même des courants plus profonds. Donc, ces courants plus profonds, il va être nécessaire dans certains cas de les explorer. Parce que ce sont eux qui sont à l'origine des symptômes qui nous sont apportés. Donc dans un premier temps, tout va bien, on surfe la vague. Dans un deuxième temps, il n'y a plus de vague, il y a encore un peu d'écume. C'est le symptôme qu'on nous apporte. Et on se rend compte que dans un certain nombre de cas, il faut aller voir un petit peu dans les courants plus profonds ce qui a généré les symptômes. Ça ne se décrète pas le désir. On ne peut pas dire je veux te désirer. Alors, on peut, voilà, il faudrait développer, mais c'est quelque chose qui se nourrit de deux aspects, l'histoire de la relation et celle de chaque partenaire. Et on va voir comment. On peut dire qu'il y a, grosso modo, deux mouvements, l'émergence du désir, c'est un aller vers l'autre. On fera la différence notamment avec ce que je vais appeler l'appétit sexuel. Et ensuite, il y a une expression du désir qui va notamment influer sur les modalités du partage intime, c'est-à-dire, entre autres, les comportements sexuels. Je vous invite à, si vous avez des questions, des incompréhensions, de m'interrompre et voilà, je répondrai volontiers. Ou des suggestions, ou un complément, n'hésitez pas, il y a des compétences dans cette salle, donc n'hésitez pas. Les trois piliers de la vie amoureuse, qui vont participer à l'émergence et à l'expression du désir, c'est, je dirais, quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de difficultés de couple, c'est l'estime de soi. Le désir, il se nourrit aussi d'estime de soi, il se nourrit de sentiments, surtout du côté du féminin, et il se nourrit de sexualité. Alors, on va voir un certain nombre de termes, appétit sexuel, ouverture à la rencontre, la différence entre désir et excitation, ce que c'est d'être objet de désir, ce que c'est d'être sujet désirant, que c'est qu'un corps érotique, et qu'est-ce que sont les modes d'érotisation. Tout ça, ça va participer à l'émergence ou non du désir. Désir et excitation. Habituellement, quand il y a désir, il y a excitation. Quand ça fonctionne bien. On désire son ou sa partenaire, et le corps se met en mouvement, il y a l'excitation. Excitation au sens, on dira très rapidement, érection pour l'homme, lubrification vaginale pour la femme. Sans aller trop dans les détails. Mais ce n'est pas toujours lié. On peut s'exciter sans désirer l'autre, et on peut désirer l'autre sans arriver à s'exciter. Et là, ça peut déjà générer beaucoup de confusion, de quiproquos et de tensions dans un couple. Exemple pour un homme. Voilà, j'ai des problèmes d'érection avec ma partenaire, elle me reproche de ne plus la désirer, pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. Alors, sauf problème organique, l'homme est très sensible à la peur de l'échec, notamment quand il se met la pression à son érection. Il faut vous rappeler que les deux manifestations visibles de la sexualité de l'homme, c'est l'érection et l'éjaculation. Ces deux manifestations sont des réflexes. Par définition, des réflexes, ça ne se contrôle pas. Donc ça veut dire que quand l'homme arrive en situation d'intimité sexuelle, il sait qu'il ne maîtrise pas grand-chose. Il est dans une certaine vulnérabilité quant à être à la hauteur de la situation. Donc il y a très souvent des facteurs psychologiques autour d'un homme qui dit « moi je te désire, mais ça ne vient pas ». Un homme peut avoir une érection sans désir, si il est avec sa partenaire, mais il nourrit son imaginaire érotique par autre chose, ou il a vu de la pornographie avant, il est encore dans cet élan-là d'excitation, alors que pour sa partenaire, il peut ne plus éprouver de désir. Pour la femme, ça existe aussi, désir sans excitation, se libérer des préoccupations quotidiennes, c'est une difficulté, un compagnon maladroit, une méconnaissance de son cœur, peur d'avoir mal à la pénétration, toutes sortes de causes qui font que cette femme peut désirer aller vers l'autre sans arriver à mettre en route les mécanismes de l'excitation. Et puis l'excitation sans désir. Une femme qui pourrait dire « Je sens bien que mon corps s'excite malgré moi, alors que je ne le désire pas vraiment. » Et c'est aussi ce qu'on entend parfois autour des abus, des violences sexuelles, des personnes qui disent « Mais je sentais, je ne voulais pas être là, je sentais clairement que j'étais dans un abus, mais il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps, de l'ordre d'une excitation et d'un plaisir, et c'est souvent une source d'une grosse culpabilité d'avoir été abusé et d'en vivre des éléments d'excitation et de plaisir. Allez aussi, voilà. Parfois, pour des bénéfices secondaires, j'accepte parfois un rapport sexuel pour avoir la paix ou pour préserver la relation, mais il n'y a pas véritablement de désir qui se met en place. Alors pourquoi je vous montre des petits bébés là ? Parce qu'on va parler de ce qui, dans la sexualité, est inné et acquis. Ce sont des réflexes archaïques, du nouveau-né, l'agrippement, la marche automatique, la succion, déglutition, il y en a d'autres, mais la seule qui va rester, le seul réflexe qui va rester de l'ordre de l'inné, ça va être la succion, déglutition, et on comprend bien pourquoi. Mais en fait, l'être humain, il n'est pas fini. Il y a très peu d'inné, l'essentiel est à construire, y compris de la sexualité. Donc il y a ceux qui ont étudié les choses d'un peu près disent qu'il y a peut-être le mouvement pelvien de l'homme dans la pénétration qui serait quelque chose d'inné, mais on n'en est même pas sûr. Ce qui fait que si on compare ce qui est inné, la tétée qu'on vient d'évoquer, et après la puberté, l'émergence de l'appétit sexuel, cette tension dans le corps qui vise à chercher une décharge sexuelle, on voit que c'est va être concomitant à l'émergence des hormones sexuelles et de la puberté. Donc en termes d'inné, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est cet aspect-là qui n'intervient qu'après la puberté. La part innée, en rentrant un peu plus en détail, donc l'appétit sexuel, L'appétit sexuel, c'est une tension qui est dans le corps et qui demande à être apaisée, une tension sexuelle qui demande à être apaisée par une décharge sexuelle. Ce n'est pas forcément du désir. Quand je reçois une femme qui dit « j'ai des soucis de désir », je lui demande toujours « et votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit ? Est-ce qu'il y a des moments où vous sentez plus, vous avez des envies sexuelles ?» Très souvent, elles me disent « oui ». Alors après, comment elles les gèrent, ça c'est autre chose, mais elles me disent « oui, mon corps me dit quelque chose », souvent au moment de l'ovulation, mais pas seulement. Hein, c'est très variable selon les femmes. Mais elles ne désirent pas pour autant. Hein, parce que le désir, c'est une adresse à l'autre. La tension sexuelle, c'est une manifestation physique d'une tension sexuelle qui demande à être apaisée. Et c'est cette tension qui suscite le geste reproductif. Et quand l'appétit sexuel est satisfait par la décharge, il y a un apaisement du corps. Alors, la cinétique, je dirais, de l'appétit sexuel peut se comparer un peu à la soif, sauf que la soif, évidemment, un besoin vital, hein, mais d'une certaine manière, il y a cette cinétique d'une tension qui monte, qui est apaisée par la décharge, un apaisement, et puis de nouveau quelque chose qui monte. Alors, évidemment, s'il fallait donner des temps, ça dépend des personnes, on va le voir. Nous ne sommes pas du tout égaux par rapport à l'appétit sexuel. Hein. Comme pour la nourriture, il y a des petits appétits, des appétits de moineau, puis il y a des goinfres. Donc déjà, dans un couple, quand l'un est moineau et l'autre goinfre, ça peut être la femme qui est goinfre, hein, j'en rencontre, ça complique déjà les choses. Hein. On n'arrive pas avec le même bagage. Donc ça peut être quelque chose de relativement cyclique. Là, on peut imaginer que c'est le moment de l'ovulation pour une femme. Mais certains sont soumis à un véritable torrent. Imaginez un torrent à la fonte des neiges. Vous connaissez bien ça en Suisse. Qui pousse énormément à un appétit sexuel qui ne lâche pas la personne d'une certaine façon. Hein. Puis des choses intermédiaires. Très globalement, quand même, avec l'âge, ça a tendance à diminuer. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Donc je me suis... Allez, une petite blague un peu sexiste pour commencer. La question de l'émergence du désir. C'est pas si simple. Hein. Parfois, on entend dire qu'il faut beaucoup de petits réglages, beaucoup de conditions, que les astres soient alignés pour que madame ait du désir et que pour l'homme, il suffit de le gratouiller où il faut et il est prêt pour le service. Mais c'est pas toujours aussi simple. En fait, notre désir combine deux mouvements psychiques. Hein. D'une part, se sentir objet de désir. Objet au sens psychologique, c'est-à-dire pas objectivation au sens. Hein. Et être sujet désirant. Alors on peut se poser la question, mais les hommes et les femmes, comment se positionnent-ils par rapport à ça ? En fait, il y a quand même une tendance. Et là, ça devient de plus en plus difficile de définir ce qui serait spécifiquement féminin spécifiquement masculin, parce que toutes les réflexions autour du genre, toutes les avancées, toute cette maturation finalement de la société autour des minorités sexuelles font que, et à un moment, on se dit le féminin, le masculin, où on est, où on en est, etc. C'est pas toujours simple, mais on voit bien aussi qu'en clinique, il y a quand même des attitudes qui sont quand même sensiblement différentes pour une majorité de femmes et pour une majorité d'hommes, avec des contre-exemples. Il y a parfois des couples où madame se comporte, je dirais, selon le schéma plutôt masculin, et monsieur, moi on s'est disputé dans la journée, j'ai pas envie de faire l'amour ce soir. Hein, voilà, il y a des choses qui sont un peu des contre-exemples. Voilà. Donc le masculin est plutôt du côté du sujet désirant. C'est-à-dire il a cette capacité à dire j'ai envie de, je souhaite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas chez lui le désir d'être. Objet de désir, et quand un homme n'est jamais sollicité sexuellement, il dit j'aimerais bien me sentir désiré. Et puis dans la manière dont il est caressé pendant les préliminaires, il y a des moments où il peut se sentir objet de désir, mais si finalement c'est lui qui fait tout le travail, entre guillemets, c'est très frustrant pour lui, hein, au-delà de la sensualité partagée. Hein. Alors on arrive parfois à des situations de ce type-là, hein, on va parler d'un quiproquo assez classique. Autour du désir. Madame, en rose, dit « Je n'ai plus de désir, il ne s'intéresse à moi que pour le sexe. » Et ça, vous devez en rencontrer pas mal dans les consultations. « Ça fait 2 mois que nous n'avons pas fait l'amour, je ne sais plus quoi faire. » Alors, qu'est-ce qui se passe ? pour en arriver là. Si on reprend au début, monsieur, dès que je lui fais un câlin, j'ai envie d'elle. Et là, déjà, il peut y avoir un quiproquo, c'est-à-dire que même s'il n'a pas d'intention sexuelle, il peut se trouver en érection, c'est un réflexe, il ne contrôle pas. Madame traduit érection, il veut du sexuel. Chaque fois qu'il est tendre, c'est qu'il veut du sexe. Donc déjà, on est parti sur un quiproquo. Quand je la caresse, elle se redit. J'ai d'abord besoin d'une tendresse qui dit « je t'aime ». Maintenant, elle évite mes câlins, est-ce qu'elle m'aime encore ? Voilà, vous voyez que d'un quiproquo, il y a des quiproquos possibles autour de la tendresse, de la façon de dire « je t'aime » et l'expression du désir. Je vous fais ça avec un autre schéma. Le résultat, c'est plus de tendresse. Madame ne veut plus de tendresse. Alors, voilà, ça, ambiance lourde. Geste de tendresse de monsieur, hop, demande de sexuel. Bon, le temps est encore au bout. Chaque fois qu'il y a de la tendresse adressée par monsieur, il y a demande sexuelle. Petit à petit, le temps se court. C'est-à-dire que madame a le sentiment petit à petit que finalement, il vient vers moi avec des gestes de tendresse que pour la sexualité. Et donc, au bout d'un moment, madame dit plus de sexualité. Voilà, tant, moi, il n'y aura pas de sexualité. Et ça peut aller jusqu'à même, je ne veux plus de tendresse. Donc, c'est un peu la description du précédent schéma. Le désir féminin. On va essayer d'entrer un peu plus dans le détail. Est-ce que jusqu'à présent, ça vous suivez ? Ok. Le désir féminin a, la plupart du temps, besoin d'une connexion sentimentale, plus la reconnaissance de sa désirabilité, qui va faire émerger son désir. On va rentrer un petit peu dans les détails. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, la part objet de désir est prédominante dans le désir féminin. Et beaucoup de femmes disent « J'ai besoin de sentir la force de ton désir à mon égard, et c'est ça qui va faire émerger le mien. J'ai besoin de me sentir désiré par toi pour que mon désir émerge. » On a utilisé à un moment l'expression « le désir féminin est répondant au désir masculin », mais je pense que c'est plus d'actualité d'utiliser de cette manière-là. Mais il y a quand même une première condition, c'est que même si je sens la force de ton désir, si j'ai besoin aussi de sentir, condition 1, que tu m'aimes, mais que tu m'aimes comme personne, comme sujet, et non pas simplement pour mon corps, pour mes seins, pour ceci ou pour cela. Hein, j'ai besoin de sentir que tu m'aimes pour pouvoir te désirer. Ça, c'est la première condition. Et donc, on pourrait dire que le désir féminin, madame pense, il a seulement envie de moi, est-ce qu'il m'aime ? J'ai besoin de savoir que tu m'aimes pour avoir envie de toi. On voit bien dans l'édition humoristique comment les choses sont résumées de façon un petit peu brute. Alors, Pierre Aulagnier, qui est une psychanalyste de la génération, on va dire, de mes parents, avait cette jolie formule. La vérité du désir de la femme se manifeste sous le voile de l'amour. Une façon plutôt poétique de dire les choses, mais un certain intérêt. On revient à nos trois piliers, et on va voir comment, finalement, la tendresse vient nourrir le sentiment d'être aimé et l'estime de soi. La tendresse que j'appelle gratuite, c'est une tendresse qui n'est pas une demande sexuelle. Une femme qui vit des gestes de tendresse va pouvoir dire « je me sens aimée, je me sens reconnue par lui, je sais que je suis importante et unique pour lui, je vis un moment enrichissant. » Mais le geste de tendresse, il est aussi source de confusion, car la sexualité s'exprime aussi par le corporel. Alors, entre les gestes de tendresse et le geste sexuel, il peut y avoir des confusions. Alors, on peut dire qu'il y a une sorte de cartographie du corps féminin. Je me souviens avoir demandé en session de couple, en difficulté, où j'ai animé à un certain moment, bon, mesdames, je pose la question aux dames, vous êtes en train de cuisiner, ou vous êtes affairés, vous êtes occupés. Monsieur vient derrière vous et prend vos seins dans ses mains. Qu'est-ce que vous ressentez ? la plupart disent, mais ce n'est pas un geste de tendresse. C'est une tendresse qui est très nettement sexualisée. Hein. Et parfois, certains hommes disent, mais moi, ma tendresse, c'est ça. Hein, ça peut être des gestes qui sont portés sur des zones, je dirais, assez sexuelles. Parce qu'en fait, il y a une sorte de cartographie du corps féminin. Alors, toujours avec des contre-exemples. Hein. C'est-à-dire que les caresses qui vont être portées, ou les touchés qui vont être portés sur le haut, les épaules, l'extérieur et le dos, ça va être plutôt sentimental. Hein. Et dans les zones plus, évidemment, sexe, poitrine, fesses, et puis autour de la bouche, etc., ça va être plus sexuel. Alors, il y a des contre-exemples. Hein. Il y a des gens qui diront, mais moi, pour moi, ça reste vraiment de la tendresse. Et puis, un couple qui, au quotidien, échange beaucoup de tendresse gratuite, non sexuelle, avec les caresses qui vont, enfin avec les touchés qui vont avec, je te prends la main, je mets ma main sur ton épaule, où il y a vraiment, c'est une tendresse qui dit je t'aime. Si de temps en temps, il y a un petit geste un peu plus, je dirais, un peu plus sexuel, ça peut rentrer dans une complicité et ça sera bien reçu. Hein, c'est pas du tout comme si chaque fois qu'il y a un geste, c'est un geste de connotation sexuelle. Hein, il y a quand même une différence. Centrée sur elle-même, c'est pas de l'égocentrisme, loin de là. Voilà une femme qui dit « Je n'ai plus de désir pour mon homme alors que la relation au quotidien va bien. Il me reproche de ne faire l'amour que dans la pénombre, que cela fait longtemps qu'il ne m'a pas vu entièrement nu. Depuis la naissance de nos enfants, je ne supporte plus mes seins et mon ventre. Je ne comprends pas comment il peut désirer mon corps ainsi avec tous ses défauts. Il dit qu'il me trouve toujours désirable, mais il dit ça pour me faire plaisir. » Donc on arrive sur la condition numéro 2 pour que le désir émerge, c'est que la femme doit arriver à se dire « Je sais que mon corps peut susciter le désir d'un homme. » On ne parle pas de son homme pour l'instant. Déjà, savoir que mon corps il peut être encore désirable pour un homme. Ce n'est pas si simple. Hein, quand l'âge, les années, peut-être les enfants qui sont nés, enfin bon, évidemment, on a chacun, homme et femme, on n'a pas notre corps de 20 ans quand on en a 60, ou 50, ou 40. Bon. Donc cette condition-là, elle n'est pas si facile à acquérir. Alors évidemment, il y a des hommes qui regardent les femmes dans la rue, qui ne sont pas toujours bien respectueux. Hein, et une femme peut tirer quelques bénéfices parfois de ce regard. Elle peut se sentir féminine dans le regard d'un homme, mais dans la mesure où c'est respectueux. Ça ne veut pas dire que pour autant, ça va susciter de l'excitation en elle, etc. Hein, c'est-à-dire qu'elle peut être flattée par un regard. S'il est ajusté, s'il est pas trop lourd, etc. Donc le désir de la femme est très influencé par la représentation qu'elle a de son propre corps. Et ça, évidemment, derrière cela, il y a le poids des codes d'attraction du féminin actuellement. D'une certaine manière, la femme a intériorisé l'image d'un idéal corporel, condition pour être désirée par l'homme. C'est extrêmement prégnant. Et moi, c'est, en tout cas dans ma pratique, c'est une des plus grandes difficultés face à une femme qui dit « Moi, je ne vois pas comment on peut désirer mon corps. » Mais quelle que soit la réalité de son corps. Parfois, des femmes que je trouve très belles, avec une belle silhouette, et qui sont incapables de dire, de reconnaître qu'elles peuvent être désirables. Et Nancy Houston, dans son livre « Le reflet dans un œil d'homme », dit « La femme se regarde être regardée. » C'est-à-dire, quand je me regarde, alors comment vont me voir les autres, hein, les hommes et les femmes. Et il y a une autre condition, troisième condition. « Je suis convaincu que tu me trouves désirable. » Ça s'adresse au partenaire, évidemment. Mais pour arriver ici, il faut avoir intégrer que ce corps féminin qui est le mien peut susciter le désir. Sinon, si je n'ai pas intégré là, je ne vais jamais réussir à accepter que celui que j'aime me trouve désirable. Ça fonctionne pas. Il faut d'abord passer par là. Alors après, ça s'auto-alimente. Mais... Donc vraiment, il y a les trois conditions. Se sentir aimé. Mon corps peut être désirable pour tout homme. Même si je ne souhaite pas, je dirais, que tous les hommes me sifflent ou enfin ce compliment de ce corps, pour pouvoir arriver à « je suis convaincu que tu me trouves désirable ». La part du sujet désirant, ben elle est là. Elle est souvent plus discrète chez la femme. Alors ça a tendance à évoluer. Hein. Il y a beaucoup de revendications autour du désir, à un juste titre, dans une perspective de parité, etc. Mais c'est quand même, quand il y a des difficultés autour du désir, on sent bien que c'est difficile pour beaucoup de femmes de se positionner en tant que sujet désirant. Que ça suppose à la fois, et on y revient, de l'estime de soi, et un regard positif sur la légitimité de ses propres désirs, ce qui n'est pas toujours évident. L'estime de soi, j'ai peur de décevoir l'autre, je renonce à exprimer mon désir, et je tends à me couler dans le désir de l'autre. C'est-à-dire que j'oublie ce qu'il y a en moi, je n'ose pas m'affirmer, et je me coule dans le désir de l'autre. Et en plus, et on le voit encore beaucoup, c'est que, mais de dire ce dont on a envie sexuellement, mais c'est pas bien, c'est pas une fille bien. Voire même, il y a des mots de salope qui sont exprimés. Hein. Et c'est vraiment très connoté, on entend des injonctions familiales, parentales, des assignations. On pourrait supposer que maintenant, les femmes osent dire leur désir, mais on voit bien qu'au cabinet, c'est encore très marqué. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose dans le désir féminin qui évolue vers une dynamique qui rejoint plus celle du désir masculin. Ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre un idéal militant et une aspiration profonde. C'est à évaluer au cas par cas, dans l'échange, en entendant les gens parler, les écoutant. Le désir masculin, le désir de l'homme est centré hors de lui-même. C'est une expression. Hein. Et là, la part sujet désirant est prédominante. Ici, on prend les mêmes photos. D'une certaine manière, l'homme revendique l'autonomie de son désir. Il a besoin presque de sentir qu'il n'a pas besoin d'aimer pour désirer. Alors que la femme va dire souvent le contraire. J'ai des patients qui me disent « Depuis quelques temps, j'ai plus d'érection quand je vois une belle femme dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ?» Et vraiment, ça les panique. Mais vous vieillissez, monsieur. Par exemple. Mais une femme n'a jamais dit ça. Quand je vois un bel homme, je ne lui oublie plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Hein? Toujours Pierre Aulagnier a écrit sur le désir. Ouais. Ce que l'homme veut croire, c'est que c'est lui qui choisit la femme, tout en acceptant mal la réciprocité de l'autonomie du désir de celle-ci, quand il n'en est pas le bénéficiaire. L'homme désire d'abord une femme capable d'investir la sexualité, d'y être vivante, joyeuse. C'est important d'entendre ça, c'est que pour beaucoup d'hommes, les critères physiques, s'ils ont pu être importants avant, peut-être dans le choix, mais si les critères physiques évoluent, ils sont secondaires pour beaucoup d'entre eux. Et c'est très souvent inentendable pour l'épouse. Hein, et donc on travaille pas mal l'idée d'être plus érotique que sexy. Sexy, c'est correspondre à des critères de séduction qui restent érotypés et valorisés actuellement. Être érotique, c'est être vivant dans la sexualité, c'est être joueur, joueuse, c'est être investi, c'est être présent, c'est être vivant. Et c'est ça qui va faire que le désir va émerger chez l'homme, plus qu'autre chose. Mais s'il y a effectivement cette idée de désirabilité qui, je ne suis plus désirable et donc ça bloque tout, Donc pour le désir masculin, s'il peut désirer s'exciter du regard qu'il porte sur un corps de femme, c'est aussi assez paradoxal, il peut continuer à éprouver du désir et à s'exciter pour sa compagne, même si le corps de celle qu'il aime n'est plus aussi attrayant qu'au premier jour. Dans cette jolie phrase, je ne sais pas trouver tant. Alors on peut le comprendre, il a les yeux de l'amour, mais une femme qui se sent aimée, on dit souvent, on bat, qu'est-ce qui t'arrive là, t'as l'air en pleine forme, ah oui, je suis amoureuse. Quand on se sent, je pense, quand on se sent aimé, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, voilà, il y a quelque chose qui irradie et qui rend beau et qui rend belle. Elle n'est pas objet de désir, elle est souvent moins nourrie. Mais l'homme aime aussi se sentir objet de désir. Quand on le sollicite sexuellement, quand on manifeste de l'attrait pour son corps et son sexe aussi. Je me souviens d'un homme qui disait « Mais elle ne touche jamais mon sexe pendant les préliminaires. J'ai l'impression de ne pas être complet. » Il faut savoir que le sexe de l'homme est quand même central dans la sexualité de l'homme. En termes de zones érogènes, il n'y a pas tellement d'autres zones érogènes chez l'homme que son pénis. Chez la femme, c'est beaucoup plus mieux réparti. Mais chez l'homme, passer à côté ou ne pas s'en occuper, c'est une atteinte à sa virilité, c'est une atteinte à sa masculinité. Alors on peut ne pas se sentir à l'aise. Hein. Ce n'est pas une injonction que je suis en train de le proposer. Simplement, il faut savoir qu'au-delà des plaisanteries, un homme a un sexe à la place du cerveau, ce genre de choses, un petit peu rapide, c'est une réalité psychologique pour l'homme. Alors, la deuxième peut paraître un peu paradoxale. L'homme se sent objet de désir quand la femme pense d'abord à son propre plaisir quand elle le caresse. C'est-à-dire quand elle est centrée, elle, sur le plaisir qu'elle ressent à caresser l'homme. Parce que si elle veut simplement bien faire, ça va être un peu scolaire. Et par contre, si elle se dit « Moi, j'aime ça, j'ai envie de jouer », son geste va être beaucoup plus incarné. Et ça va susciter chez l'homme beaucoup de plaisir et sans se sentir à ce point-là objet de désir. Ouais. Ça va sur ce... Ouais. Vous tenez le coup? Vous voulez refaire le plein, quelque chose? Ça va?
Et jusque-là, on est en train de dire que la sexualité, c'est quelque chose de strictement politique.
Tu peux développer.
Le regard qu'il est posé sur les femmes, de comment elles doivent fonctionner, comment elles doivent être, qui était complètement incarné, et qui se répercute sur leur comportement sexuel. Je caricature, je j'abrège, mais oui.
Pour une part, tout ce qui est connotation négative sur une femme ne demande pas, effectivement, je crois que c'est culturel, je suis bien d'accord. Mais c'est difficile de faire la part des choses dans ce qui est vraiment de l'ordre d'un investissement psychique différent et la part du culturel.
L'investissement psychique et à la part de...
Du culturel.
Culturel, oui.
C'est très difficile. Et du coup, au cas par cas en entretien, on découvre la réalité. Est-ce que c'est effectivement quelque chose de culturel et on travaille le lien avec les parents? Est-ce que c'est quelque chose d'autre?
C'est le regard sur les parents en général. Au-delà de la culture.
Mmh. J'en trouve.
Les gens, les hommes qui disent on s'est engueulé aujourd'hui, j'ai pas envie de faire l'amour ce soir. Mmh. Oui, bien sûr, ils existent, mais ils sont c'est souvent les jeunes hommes. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Et je peux pas généraliser, ouais, évidemment. Ouais. Mais c'est dans les couples qui ont plus d'ouverture, qui comprennent, qui se voient différemment, qui sentent un autre regard sur eux, la part de la société, oui. Qui osent dire, un homme qui ose dire, j'ai pas envie de faire l'amour parce qu'on s'est engueulé, ça suppose qu'on peut montrer des émotions. Mmh. Ergo, c'est pas...
C'est vrai qu'il faut y avoir une lecture politique.
Je ne peux pas généraliser. Hein.
Mais je pense que c'est important à la fois de défendre des idées, de faire évoluer la société dans le bon sens, comme tu l'évoques, Et à la fois, il y a une posture clinique qui est d'accueillir la réalité. Et il y a des réalités qui sont effectivement... Alors, moi, ce n'est pas forcément des jeunes qui disent « j'ai pas envie de faire l'amour parce qu'on s'est disputé », c'est plutôt, pour moi, des profils d'hommes qui ont une dynamique du féminin en eux, quelque part. Hein, mais c'est pas, ils n'en sont pas moins hommes. Hein, mais j'en parle un peu plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de suivre l'histoire de la personne. Et il y a aussi des postures qui sont très, je dirais, machistes, enfin, très classiques. Hein, et des postures qui vont être beaucoup plus dans l'air du temps, mais avec des paradoxes aussi. Hein. Autour du consentement, on arrive à des choses un peu étonnantes. Parfois. Enfin, là, on va en discuter. Ouverture à la rencontre. On pourrait dire aussi l'impulsionnalité, ce genre de choses. Tout à l'heure, on a vu l'appétit sexuel autour de l'inné. La part acquise, ça va être cette ouverture à la rencontre qui se construit de la naissance, je dirais, à la puberté et au-delà. Ça va circuler deux notions. Le fameux désir qu'on adresse à autrui. Et une deuxième notion qu'on appelait la sensorialité du corps. Et cette ouverture à la rencontre, contrairement à l'appétit sexuel, c'est un élan qui ne s'arrête pas avec l'apaisement du corps. Ça se construit un petit peu, si on reprend l'approche psychodynamique freudienne, hein, par un certain nombre d'étapes. Il y a eu d'autres propositions qui sont faites. J'en parlais un petit peu de sexo-analyse tout à l'heure, il y a d'autres références. Mais c'est l'idée d'une construction. La construction du corps érotique, on va prendre l'exemple de la bouche. C'est d'après Christophe Dejour, notamment, qui est un élève de Laplanche. La fonction biologique, téter, apaiser la faim, hein, pour le bébé, c'est associé à la chaleur et à la sécurité. Et petit à petit, le plaisir de la bouche, il va s'affranchir de la fonction biologique, qui est de manger, de respirer. Et chez l'adulte, la bouche devient vecteur de la rencontre dans le plaisir érotique. Donc il y a un certain nombre de fonctions biologiques et un certain nombre de parties du corps, on pourrait dire même toute la surface de notre corps et tous nos orifices peuvent s'affranchir de nos fonctions pour prendre une valeur érotique. Alors variable selon les personnes, mais tout peut être érotisé dans le corps de l'homme et de la femme. L'ouverture à la rencontre, elle est plus ou moins ouverte. On va expliquer un peu pourquoi. C'est-à-dire que là, je vais être en difficulté dans la relation, là, je vais être peut-être plus ouvert à la relation. Et si je suis un homme hétérosexuel, je fais l'hypothèse que là, je suis ouvert à la rencontre avec le féminin. Mais je peux, si je suis très ouvert à la rencontre avec le féminin, être très en difficulté avec mon corps érotique. Hein, le corps érotique, comment il se construit ? Eh bien, c'est toute la manière dont on manipule l'enfant quand on le soigne, comme on le caresse, de façon ajustée évidemment, comment c'est tout le holding et je ne sais plus qui déjà, j'oublie son nom, le handling, en cohérence avec le sourire, les paroles qui font comprendre à l'enfant que quand on le manipule, c'est quelque chose de confortable, d'agréable, etc. Donc ce corps érotique se constitue à ce moment-là. Mais évidemment, il n'a pas de signification sexuelle avant que la puberté vienne révéler tout ce qui s'est engrammé dans ce corps. Alors évidemment, si on se retrouve ici, peu d'ouverture à la rencontre et très faible sensorialité, il ne va pas se passer grand-chose. L'idéal, ça serait... C'est là, quoi, hein. Qu'est-ce qui se passe finalement ? Cette ouverture à la rencontre jusqu'à la puberté, tout ce qui s'est construit, qui s'est engrammé, c'est comme si vous avez sans doute déjà utilisé ce qu'on appelle de l'encre sympathique ou du jus de citron pour écrire un message. Hein ? Alors là, vous écrivez l'histoire sexuelle, et du moins la construction sexuelle de l'enfant au jus de citron, et à la puberté, l'effet des hormones vient comme un fer à repasser, révéler l'histoire qui s'est construite à ce moment-là. C'est-à-dire que finalement, on pourrait dire que dans la sexualité, l'inné succède à l'acquis. L'inné, il est là. Montée hormonale, montée de l'appétit sexuel. Mais l'acquis, il s'est construit petit à petit, non sexualisé, mais il s'est bien construit avant la puberté. La manière dont je suis capable de rencontrer à l'âge adulte une partenaire ou un partenaire se construit à ce moment-là. Et ça prend du sens qu'au moment de la puberté. C'est clair ? Nos modes d'érotisation. Je prends un exemple. Lui, tout allait bien et soudain, elle a retiré ma main de son sein et s'est retournée sans un mot. Je n'ai pas compris. Elle, une autre situation, c'était après de longs préliminaires, au moment où il est venu en moi, son visage s'est fermé, il n'était plus là, alors je l'ai enlacé tendrement, mais il m'a écarté, il était ailleurs, on n'en a pas reparlé, que s'est-il passé ? Nos modes d'érotisation, ils sont agis dans nos comportements sexuels et ils s'expriment dans notre imaginaire, nos fantasmes et nos rêves. Alors on rentre un petit peu dans la sexoanalyse. Sexoanalyse qui a été créée par Claude Crépeau, qui est un Canadien. Et il y a eu en Suisse des gens qui ont enseigné la sexoanalyse actuellement, surtout en Belgique et un petit peu en France. Et au Canada, évidemment. Donc la sexoanalyse, elle explore nos pratiques, notre imaginaire, pour tenter d'identifier les conflits inconscients qui pilotent nos érotisations, sortent notre désir. L'idée que le féminin se manifeste non seulement chez la femme, mais aussi chez l'homme. Il y a, chez l'homme et chez la femme, une dynamique du féminin, du masculin, en proportion variable, et qui n'est pas forcément plus du masculin chez l'homme que chez la femme. Et donc la même chose aussi dans l'autre sens. Freud parlait d'une masculinité primaire où la femme vivrait l'absence de pénis comme ce dont elle est privée. C'était beaucoup contesté. Crépeau reprend une idée plus ancienne, et surtout Robert Stoner qui a développé ça, qui est l'idée d'une féminité primaire. C'est assez intéressant de comprendre comment ça fonctionne, en tout cas pour une pratique autour de cette question d'érotisation. C'est l'idée que le nouveau-né, vous savez, est dans un état de dépendance absolue à sa mère, et donc finalement le féminin imprègne filles et garçons, dans ses premières périodes de la vie. Et du coup, pour la femme, son développement psycho-affectif va l'admettre dans une continuité du féminin maternel, ce qui fait qu'elle aura une identité de genre plus solide. Et elle aura fait un travail d'individuation pour se dégager de la mère, hein, entre femmes. Et l'homme, c'est le contraire. Il y aura un travail de mise à distance du féminin pour pouvoir construire sa masculinité avec une identité de genre plus fragile. Et on verra comment ça se manifeste, notamment par des postures très masculines, je dirais presque trop masculines. Et par contre, il peut plus facilement se dégager du féminin de la mère, de sa personnalité, pour s'identifier au père. Et finalement, il y a deux processus psychiques qui interagissent. D'une part, il y a la mise en place de l'identité de genre, hein, ce qu'on appelait la dynamique du masculin et du féminin en soi, et la mise en place de notre capacité à être pleinement nous-mêmes. Hein, ça, c'est, on trouve les questions d'estime de soi, de place vis-à-vis de l'autre dans la relation, qui s'articulent autour des idées de soit la fusion, soit l'individuation, et comment je trouve ma place entre ces deux postures. Des questions que chacun peut se poser dans une relation. Voilà comment je vis mes relations à l'autre sexe et au même sexe. Comment s'exprime le féminin et le masculin en soi. Alors, vous avez déjà, autour de la question de la distance ou de proximité, entendu des gens dire ce genre de choses. Quand je suis avec elle, au bout d'une heure, j'étouffe. De toute façon, si on n'est pas d'accord avec lui, on est contre lui. Elle ne se confie jamais. J'ai l'impression qu'elle a peur qu'on l'envahisse. Ou celui-là, il nous saoule à nous raconter sa vie privée. Chaque fois, on est dans une question de distance qui ne convient pas. Cet inconfort, il dépend de l'autre, bien sûr, l'attitude de l'autre. Si elle m'envahit, j'ai l'impression d'étouffer. Mais ça dépend aussi de ma capacité à recevoir cette proximité. Et cette limite confort-inconfort, elle est propre à chacun. Des questions qu'on peut se poser dans une relation, ai-je pleinement ma place? Est-ce que je me sens pleinement moi-même dans cette relation? Et là, on est clairement en lien avec le besoin d'individuation. Jusqu'où j'apprécie la proximité avec l'autre dans la relation, on est en lien avec le besoin de fusion. Et donc, prendre sa place, c'est être différent de l'autre, c'est me mettre à distance. Et si j'ai aussi un besoin de proximité, oui, il y a toujours une tension entre jusqu'où je m'éloigne pour rester moi-même et jusqu'où j'apprécie la proximité avec l'autre. Et ces deux processus psychiques, autour de l'aménagement dynamique du masculin et du féminin et autour de mon positionnement dans la fusion-individuation, ça va susciter des anxiétés. Et réagissant à ces anxiétés, il va y avoir des modalités qui vont se manifester dans la sexualité de chacun. Par exemple, anxiété liée au genre chez l'homme, dans la sexualité, j'ai peur de ne pas être suffisamment masculin. J'imagine que pour être homme, il faut que. Je ne suis pas. J'ai peur de perdre ma masculinité si je suis trop tendre, trop gentil, trop ceci. D'être trop masculin. Je pense à un homme qui a des grosses difficultés d'érection parce que dans sa vision, la pénétration telle qu'il avait entendu évoquée par ses copains adolescents et jeunes adultes était autour de quelque chose de violent. Il l'avait perçu comme quelque chose de violent, d'agressif, et il ne pouvait pas entrer dans ce truc-là. D'être trop féminin ou d'être attiré par un homme. Un exemple. Madame, on est des bêtes au lit, c'est son expression. J'ai des orgasmes comme je veux, mais aucun plaisir. Lui, il a un appétit sexuel important, mais c'est vécu comme une contrainte corporelle qui doit apaiser. C'est vraiment quelque chose de fort chez lui. Il a presque mal. Les actes sexuels répétés sont investis sur le mode de la performance. Il doit démontrer son endurance durant la pénétration et vit son éjaculation comme une sanction. Ah oui, c'est terminé. La connexion affective, ça ne concerne pas. Visiblement, ce n'est pas un sujet pour lui. Dans son histoire personnelle, on verra ensuite qu'il a vécu des scènes d'humiliation et de moquerie quand enfant, il aimait jouer à des jeux de filles avec des filles. Quand on leur demande leur attente respective, elle aussi a un gros appétit sexuel. Ce n'est pas la fréquence des rapports qui la gêne, mais c'est le fait de ne pas être connectée affectivement. Elle attend aussi plus d'attention quotidienne. On parlait de tendresse tout à l'heure. Monsieur reste dans un discours en boucle, très défensif. Il a des gros besoins et qu'il doit donc apaiser. Donc il investit clairement un mode d'érotisation hyper masculin qui doit venir démontrer ses qualités viriles. Avec des peurs plus ou moins conscientes identifiées, peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il imagine qu'on attend d'un homme, conviction que les démonstrations affectives relèvent du féminin, et enfin la peur d'une attirance homosexuelle totalement inacceptable pour lui, qui vient démentir par ses actes répétés avec sa femme. Donc on voit bien, au-delà de ce qui nous amène comme symptôme, tout ce qui peut, sous la surface de l'eau, dans les rebonds profonds, mettre cet homme dans des postures assez rigides. On verra après, très défensives. Chez la femme, j'ai peur de ne pas être suffisamment féminine, on l'a évoqué tout à l'heure, et de n'être qu'un objet sexuel. C'est cette difficulté à la fois avoir envie d'être objet de désir, sentir le regard de la partenaire qui a envie d'elle, mais à la fois avec le risque de n'être qu'un objet sexuel, et de devenir une victime sans défense aussi. Pour les deux sexes, des anxiétés liées au besoin de fusion. Dans la relation, j'ai peur d'être réenglouti par l'autre. C'est-à-dire, j'ai besoin de me rapprocher, besoin de fusion, mais si je me rapproche trop, je vais me perdre dans l'autre. Où est ma place? Est-ce que je vais encore exister en tant que tel si je me rapproche de l'autre? Bon, ça prend différentes formes, mais c'est toujours cette idée-là. J'ai besoin de me rapprocher, mais si je me rapproche trop, je me perds. Là, ça sera le contraire pour l'individuation. Pour un exemple, lui vient consulter seul, il n'a plus de désir pour sa nouvelle compagne, alors même qu'il la trouve formidable, désirable, et qu'il s'attache à elle, et ils font des projets de famille. Parce que ce qu'elle dit, elle pense qu'il ne la trouve pas si séduisante que cela, et se demande s'il va en voir une autre, ce qui n'est pas le cas. Elle a peu confiance dans les hommes, car elle a été marquée par l'infidélité de son père, infidélité qui a aussi été la cause de rupture de son précédent couple. Pourtant, là, j'en suis où là? Voilà. Je suis perdu. Ça y est. Excusez-moi. Dans la première période de la relation, elle était très épanouissante. Il n'y avait pas de souci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, ce scénario de perte de désir, ça s'est manifesté dans d'autres relations. Et chaque fois au moment où ça commençait à devenir bien. Ça devenait très, très investi affectivement. Dès que ses sentiments actuels pour elle le portaient très câlin dans la sexualité, son malaise grandit. Il l'a mis à distance. C'est comme s'il fallait qu'il choisisse entre aimer et avoir la sexualité. Dans son imaginaire érotique à lui, il jouit sexuellement de femmes soumises à tous ses désirs. Il n'a aucun sentiment pour elle, voire un peu de mépris. Donc on voit bien que s'il y a de la sexualité, il ne doit pas y avoir de sentiment pour elle. Et ce n'est pas compatible. La fonction de ce fantasme, c'est de tenir à distance la peur de perdre son identité propre dans des rapprochements sexuels trop connectés affectivement, notamment anxiété de réengloutissement, d'anéantissement, et notamment de crainte de fusion avec la mère, fusion maternelle. Alors, la terme n'est pas très bien, mais très souvent dans ces situations-là, il y a quelque chose de l'ordre du maternel qui s'invite plus ou moins consciemment chez les hommes. Et dès qu'il y a une connexion affective, c'est comme s'il se rejouait la connexion affective à la mère avec la partenaire, sauf qu'avec la mère, cette connexion affective n'avait pas de lien avec la sexualité. Donc ça vient faire écran à une possible sexualité avec la partenaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, il y a aussi une perte, une problématique autour de son idée du masculin. Mais être trop affectueux, ça viendrait, d'une certaine façon, perdre une partie des prérogatives du masculin. Besoin d'individuation, on a vu la fusion, l'individuation, dans la relation sexuelle, j'ai peur d'être abandonné par l'autre, de représailles de l'autre, de séparation avec l'autre. J'ai besoin de m'éloigner, mais si je m'éloigne, est-ce que je ne vais pas le perdre? On a dit pour le désir tout à l'heure, besoin d'individuation. Si j'exprime mon désir, est-ce que je ne vais pas le décevoir? Comment je peux te faire plaisir si tu ne me dis pas ce que tu aimerais vivre dans la sexualité? Elle, exprimer mes désirs sexuels, mais ce n'est pas facile pour moi. Pour quelle raison? Ce serait prendre le risque de te décevoir, que je ne suis pas une fille bien et respectable, on l'a vu tout à l'heure. Donc elle préfère ne pas prendre le risque de l'abandon pour préserver cette proximité. Et c'est plus fort que sa capacité à être elle-même et affirmer son propre désir. Donc elle préfère renoncer. Et ça, c'est très fréquent. En tout cas, dans ma pratique. Quand on va un peu plus loin avec elle, un imaginaire érotique autour d'une soumission de viol par un inconnu, souvent très érotisé. Et finalement, c'est comme par ce fantasme-là qu'elle s'autorise à accéder à la jouissance, parce que finalement, elle n'a pas en assumé la responsabilité, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est lui, il m'oblige. Il y avait d'autres peurs du côté de la dépendance, à devenir, à à la sexualité et à son homme, et toujours en ligne de fond, un manque d'estime de soi, qui ne lui permet pas de s'autoriser à se positionner comme sujet désirant. Ces mécaniques d'érotisation, hein, sont souvent aussi mises en œuvre en réaction à une peur ou un trauma, on l'a vu, mais c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que face à une peur importante ou même un traumatisme, une violence, une agression, soit la victime va érotiser le trauma lui-même, c'est-à-dire en prenant du plaisir à être violentée ou dans des fantasmes où elle subit la violence. C'est une option, hein, ce qui permet de, je dirais, d'atténuer finalement d'une certaine manière ou de faire un pas de côté par rapport à la souffrance de cette violence. Ben, je l'érotise. Soit je renverse le trauma en triomphe. C'est-à-dire, cette personne érotisera la position de celui qui jouit de la violence infligée à l'autre. Et on voit que, selon les personnes, face à une situation de violence, on a soit l'un, soit l'autre. C'est pas très souvent. On évoquait tout à l'heure cette femme qui se trouvait dans le désirable. Quand on explore ses fantasmes, elle est une femme de pouvoir, au charme irrésistible, qui domine ses subordonnés masculins à des fins sexuelles. Donc ça vient contrer, atténuer les anxiétés chez elle, qui sont la peur de perdre le contrôle dans la sexualité, de devenir dépendante de son partenaire, voire même dépendante de la sexualité elle-même, et en devenant objet de désir plus, dans son fantasme, elle opère un retournement de sa peur en triomphe. Et là, c'est un peu assez proche, peur de devenir une victime sans défense de l'homme, et en prenant par ses charmes le pouvoir sur ses hommes, ceux-ci deviennent victimes, et donc elle n'est plus victime. Vous tenez le coup ? On avance, on bientôt. Donc finalement, d'un côté on a des besoins de fusion, d'individuation qui se combinent au mouvement autour de dynamique du féminin et du masculin, plus ça va générer des anxiétés associées. Là, ça va se confronter à une part de nous-mêmes qui rêve toujours de plaisir sans limite, d'absolu. Évidemment, ça va créer des conflits inconscients. C'est un truc tout à fait classique, ou des paradoxes à gérer. Et finalement, dans la sexualité, on va chercher des solutions d'apaisement par nos modes d'érotisation, par notre imaginaire érotique et nos comportements sexuels. Mais finalement, ces modes d'érotisation, nos comportements, c'est d'une certaine façon, c'est une manière de résoudre les anxiétés que nous avons évoquées. Alors pourquoi c'est un apaisement temporaire ? Parce que ces apaisements, ils arrivent dans l'excitation sexuelle, dans un état de conscience modifié qui retombe après l'orgasme. Donc c'est toujours à renouveler. Donc dans la sexualité, on explore beaucoup les comportements sexuels, on rentre vraiment dans le détail, vraiment le grand détail, et des fantasmes et rêves. Alors les fonctions de la sexualité, vous les connaissez, hein, reproductrice, c'est évident, hédonique autour du plaisir, évident, complétive, évident, défensive, moins évidente, complétive, c'est au service des besoins psycho-affectifs fondamentaux, aimer, être aimé, proximité, connexion affective, etc. Défensive, on voit mieux ce que c'est qu'une sexualité défensive, c'est qu'on vient endiguer temporairement des conflits psychiques, les contourner, neutraliser des anxiétés. Alors, vous avez sans doute compris, plus notre sexualité est complétive, sans trop de composantes défensives, plus notre fonctionnement érotique va être de l'ordre plutôt du terrain de jeu plutôt que de la résolution des conflits, s'exprimer avec souplesse plutôt que d'être contraint par une certaine rigidité, être plutôt dans une palette érotique élargie plutôt que restreinte, être dans plus dans le savourer de l'attention sexuelle plutôt que se hâter vers une décharge orgasmique. Et avec une capacité d'évoluer avec souplesse entre des attitudes fusionnelles et antifusionnelles. Alors, ce terme fusionnel et antifusionnel, ben, fusionnel, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire ce besoin de se rapprocher, de se dire des mots tendres, des mots d'amour, vraiment un rapprochement. Et antifusionnel, c'est quelque chose de l'ordre peut-être d'une certaine agressivité, d'une vigueur, d'une quelque chose qui est plus d'une mise à distance, érotisée, hein, qui n'est pas... voilà, qui vient un petit peu faire la contrepartie de ces attitudes fusionnelles. Et ça, en entretien, il y a des choses qui, quand on voit des fonctionnements extrêmement rigides, comprendre ce qu'il y a derrière en termes de modalités d'érotisation, c'est extrêmement aidant. Mais ça, c'est vrai qu'il faut quand même aller un peu dans les détails, hein, et se former à ça.
C'est aidant pour qui ?
Comment ?
C'est aidant pour nous, mais pas forcément pour le couple.
Je n'ai pas compris.
C'est de voir quel est le fonctionnement individuel de la sexualité quand elle pose problème dans le couple. Ça nous est utile pour nous à comprendre comment le mécanisme s'est mis en place. Ça ne nous aide pas forcément à aider le couple.
Ça dépend.
Trouver d'autres voies et après ça, c'est un travail énorme.
Quand on est sur ces modalités d'érotisation dans les courants profonds, je suis d'accord avec vous, avec toi. Si c'est des quiproquos autour des gestes de tendresse, un quotidien qui est très tendu, etc., là c'est vraiment le rôle du conseil conjugal, hein, et la thérapie de couple. C'est pour ça que moi j'interroge sur la tendresse. C'est parfois. Un peu de pédagogie, un peu de clarification, ça permet de sortir des malentendus, des quiproquos, et de tout ce que ça génère, pour retrouver un certain apaisement du quotidien. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir, ils vont avoir un périmètre érotique qui va s'ouvrir, mais ils vont avoir au moins envie de s'adresser mutuellement leurs désirs et de vivre ce qu'ils déjà vivaient auparavant. Là, quand on parle de ces difficultés-là, c'est quand il y a vraiment des attitudes très, très marquées, très rigides, des limitations très fortes dont on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Alors, on dit, ben oui, chacun a ses limites, ses goûts, ses dégoûts, ça, c'est à respecter à la sexualité, et ça peut, je dirais, matcher ou pas avec le ou la partenaire. Mais là, on est vraiment sous la surface de l'eau. Quand je dis objectiver l'autre dans la sexualité, ça nous renvoie à des choses pas très positives, hein, ça nous renvoie au non-consentement, au non-respect, à la violence aussi. Et on est bien d'accord que c'est totalement inacceptable. Et pourtant, si maintenant j'osais vous poser la question de manière anonyme, et que vous pouviez répondre de manière anonyme, qui a déjà apprécié dans l'excitation d'une activité sexuelle de n'être plus que le jouet sexuel de l'autre ? Je suis fort à parier qu'il y aurait un certain nombre de réponses positives. Et c'est très paradoxal. Parce qu'on va dire, mais non, c'est pas possible ça. Être dans l'antifusionnel, ce que je disais tout à l'heure, hein, une certaine agressivité vis-à-vis de l'autre, une certaine vigueur, des propos peu tendres, voire même le considérer comme un objet sexuel. Et il y a quelque chose... Oh, là, j'ai un petit problème. En fait, dans un acte sexuel, chacun peut passer par des phases fusionnelles et des phases antifusionnelles. Très souvent, voilà, prélude, préliminaire, ça peut être très fusionnel, début de pénétration, fusionnel, phase pré-orgasmique, souvent dans l'excitation, il peut y avoir de la vigueur, des propos, des attitudes qui sont loin d'être fusionnelles. Et peut-être l'organe doit être fusionnel. Et puis post-lune, on pourrait dire que dans les meilleurs des cas, c'est bien quand c'est fusionnel et qu'il y a un petit peu un moment tendre après l'orgasme. Hein? Ce que disent beaucoup de personnes, là je prends l'exemple d'une femme, mais ça peut être aussi pour un homme, hein? quand elles sont en confiance, qu'elles se sentent accueillies et appréciées comme sujet, comme personne, il y a un respect, de la confiance. Certaines femmes apprécieront à certains moments l'activité sexuelle de n'être plus que l'objet sexuel de leur partenaire, en demandant de l'être. Hein, fais de moi ce que tu veux, voilà, je suis ton jouet, etc. Alors, je me souviens notamment d'une jeune femme que j'ai reçue, qui était extrêmement militante féministe. Elle était complètement désarçonnée parce que son grand truc, justement, c'était ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, elle militait pour que. Qu'il y a du respect, qu'il y a du respect dans la sexualité, qu'il y a du consentement, qu'il y a quelque chose de très du côté de la parité entre un homme et une femme dans la sexualité. À la fois, ce qu'elle érotisait, c'était d'être à un moment insulté, bousculé, parce que c'est ça qu'elle érotisait. Donc elle ne supportait pas ce hiatus. En fait, on n'est pas dans le même registre. Ce n'est pas de la violence à proprement parler. Si elle se sent si la femme ne se sent pas sujet dans la relation, elle ne pourra jamais accepter ça. Elle s'autorise à se... Ou un homme, il ne peut pas s'autoriser à dire « J'ai envie d'être ton jouet sexuel » s'il n'est pas en confiance avec l'autre, s'il n'est pas dans le sentiment d'être aimé pour lui-même. Est-ce que vous comprenez la différence, la nuance, hein? Je ne sais pas. Tu sais, oui. Mais c'est vrai que quand on... C'est d'accord. Objet, c'est pas très politiquement correct. Alors, bien sûr, il faut faire très attention, hein, quand on est en entretien, de voir comment cette vigueur, cette agressivité s'exprime et qu'est-ce qu'elle manifeste de la relation, de l'érotisme partagé ou de la violence, tout simplement. Hein. Donc, le choix du partenaire, il viendra soit nourrir et consolider nos modes d'érotisation, et là, c'est super, soit les contrecarrer, suscitant frustration et inconfort. Nos désirs et nos modes d'érotisation créent du désordre en nous. Ça. C'est plus qui disait que la sexualité, c'est l'étranger en soi qui défie souvent le rationnel, nos valeurs, la bienséance ou la morale. Et au-delà de notre socle biologique, qu'est-ce qu'un couple peut ambitionner dans son projet érotique quand l'un se situe au niveau d'une gentille petite tente canadienne? Alors ça peut être un peu mieux, ça peut être une petite jolie caravane, petite roulotte, un joli pavillon, et puis là les grands artistes. Hein. Donc quand, je ne sais pas, madame est ici, là, c'est Franck Guéry, je crois, architecte, monsieur est là et madame est là, c'est pas facile hein, d'accorder les choses. Au contraire. En guise de conclusion, je vous libère. Désirer sa vie durant est devenu une attente forte, hein, participant du bonheur individuel. Cette exigence, elle révèle aussi des tensions entre aspirations et limites de chacun, d'autant plus vives quand les érotisations sont défensives. Les conseillers conjugaux thérapeutes de couple ont toute leur place pour accompagner les partenaires vers une circulation du désir suffisamment qualitative. Et je vous remercie de votre attention cette soirée. Merci. Les questions sont ouvertes.